Bienvenue sur Métiers à tisser, une émission proposée par les Carlotois, un collectif qui offre de nouveaux espaces de parole sur le territoire. Chaque mois, un acteur du champ social vient nous raconter la façon dont sa profession l'a mené à la rencontre de l'autre, de l'inconnu, du différent, de l'énigmatique. Ce mois-ci, c'est Patricia qui nous accueille. Patricia, bonjour.
Bonjour Sylvie.
Patricia, tu as deux métiers, assistante sociale et psychanalyste. Voilà une association bien inhabituelle, en tout cas une association qui ne va pas de soi. Pourrais-tu nous dire quels sont les chemins et les rencontres qui t'ont mené jusque-là ?
Bon, merci de m'avoir fait cette proposition, déjà. Alors, quels sont les chemins qui m'ont mené d'abord au métier d'assistante sociale, puis de psychanalyste ? Les chemins sont... c'est mon histoire. Quand j'étais en classe de 3e, je voulais faire juge pour enfants. Et de juge pour enfants, je suis passée à assistante sociale. Juge pour enfants, je crois que je ne me suis pas arrêtée pour plein de raisons. Certainement aussi la durée des études m'a fait peur. Et assistante sociale, après coup, je dirais que c'est un choix qui ne s'est pas fait par hasard. Il était nécessaire pour moi, je crois, à cette époque-là de ma vie, de m'orienter vers un métier où on écoute l'autre. Et je pense que c'est le point commun avec juge pour enfants. Hein. J'avais 14 ans, 15 ans. De là, voilà, j'ai passé mon bac, mon concours d'assistante sociale, et j'ai commencé comme assistante sociale en faveur des élèves, donc dans des lycées et collèges pendant 10 ans. Ce qui rejoint quelque part la question de juge pour enfants, puisque j'ai travaillé beaucoup avec des juges pour enfants. Et en fait, la première rencontre qui m'a amenée à m'interroger, je crois que c'est la naissance de ma fille. Donc je suis devenue maman. Et vraiment, je pensais que c'était très simple de devenir maman. Ça n'a pas été simple du tout. Et la naissance d'Emma voilà, a fait surgir des choses qui étaient là, mais que je pense que j'avais bien voulu ignorer, et a permis la rencontre avec la psychanalyse pour moi. Et de la rencontre avec la psychanalyse est arrivée la question de mon désir. Et dans le cadre de ma profession d'assistante sociale, un jour est arrivée une dame que j'appellerai Madame S, par exemple. Et cette dame a complètement modifié, je crois, mon rapport au savoir dans un premier temps. Où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, mais je comprends pas, enfin... Ça a été un peu comme la naissance d'Emma, en fait. Ça a été... il y avait tout ce que j'avais appris de la part des autres, tout ce que j'avais appris dans le cadre de ma formation d'assistante sociale. Et ben là, ça marchait pas. Tout ce que j'avais appris, ça marchait pas du tout. Et du coup, comme j'étais à ce moment-là en analyse... Je me suis posé plein de questions aussi sur la profession et sur comment accueillir quelqu'un d'inattendu comme cette dame qui était vraiment... C'est même pas différente, c'est autre, complètement autre en fait.
Alors en quoi ça ne marchait pas justement ?
Les savoirs établis ?
Oui.
Ça ne marchait pas parce que c'était moi qui voulais pour elle. Et du coup, ça ne pouvait pas marcher. Sauf qu'elle, elle insistait, elle venait, elle voulait parler. Elle me déroutait. Et en même temps, j'avais vraiment l'impression, mais vraiment, c'est comme une histoire de corps, en fait, qu'il fallait que j'y sois. C'était pas possible autrement. Mais je ne savais pas comment y être avec elle. Voilà. Et du fait de l'analyse... et de la remise en question de tous ces savoirs et de me rendre compte que ben, l'ignorance était avait été quand même très forte. D'ailleurs, quand je dis ça, l'ignorance a été très forte. C'est ce que dit Duras aussi à un moment donné, qui est une autre rencontre de ma vie. Elle parle de l'ignorance qui se situe entre la folie et la mort. Elle dit une phrase très belle que j'avais notée. J'espère que je vais retrouver, parce que je la trouve très très belle. Elle dit « La folie ou la mort sont les deux termes familiers entre lesquels l'ignorance oscille d'habitude. » Et je trouve ça très joli parce que c'est comme si en effet il y avait quelque chose qui est venu me parler aussi. Autant dans la rencontre avec Madame S sur la question de la folie et la mort qui l'a concernée beaucoup, mais aussi, c'est là où il y avait ma propre ignorance, c'est que sans le savoir, elle venait faire écho à des choses et des questions qui me concernaient aussi et que j'avais mises de côté. Et en fait, je crois que c'est comme la rencontre avec l'écriture de Duras, en fait, c'est que je crois que jusqu'à présent, enfin en tous les cas à ce moment-là, ma vie, je regardais, mais je n'écoutais pas. Et c'est une façon de dire que, voilà, par exemple, un livre de Duras, je pouvais le lire et regarder les mots et lire l'histoire, mais je n'écoutais pas la petite musique derrière. Et Madame S a eu cet effet-là pour moi de permettre que mes oreilles s'ouvrent à autre chose que ce que je savais déjà. Je dirais ça comme ça.
Madame S, donc, tu l'as rencontrée dans le cadre de ton métier d'assistante sociale.
Oui.
Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre?
Oui, Madame S, elle est venue un jour à mon bureau. La première fois que je l'ai rencontrée. Elle est venue pour demander une aide par rapport à une démarche administrative. Ça, c'était vraiment le premier jour de la rencontre. Et elle pouvait passer du rire aux larmes dans ce temps d'entretien, ce qui avait déjà commencé un peu à me dérouter. Et je lui remets un rendez-vous, elle ne vient pas. Et un jour, elle revient en chemise de nuit avec le bracelet de l'hôpital. Et elle s'assoit et elle me dit, voilà, je suis partie de l'hôpital et c'est à toi que je veux parler. Et là, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire qu'elle était en train de me signifier qu'elle avait choisi à qui parler. Alors, à moi d'accepter ou de refuser ce travail avec elle. Et il se trouve que j'ai accepté. Et c'est elle qui m'a, je crois, qui a commencé, en tous les cas, à m'apprendre comment travailler avec certaines personnes différentes et plus que, je disais tout à l'heure, plus que différentes autres, parce qu'il ne s'agit pas du même, il s'agit de quelque chose de radicalement différent, en fait. C'est pour ça que je dis autre. Et cette rencontre a permis que, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que j'ouvre les oreilles et que je déconstruise. Ce que j'avais commencé à déconstruire à titre personnel dans l'analyse, c'est déconstruit aussi professionnellement, sans mettre de côté des choses que j'avais apprises. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'est déconstruit et c'était c'est une question d'accueil aussi de la parole de l'autre, en fait, qui a été en jeu à ce moment-là pour moi. C'est pour ça que je fais un parallèle avec la naissance aussi d'un enfant, en tous les cas, quand ma fille est née. C'était aussi accueillir l'enfant dans sa différence, pour le coup. Et laisser tous les savoirs. Il faut qu'elle boive, enfin voilà, il faut qu'elle boive 6 biberons. Mince, elle en a bu que 4. Qu'est-ce que je fais? Mais ça va pas du tout, il faut qu'elle en boive 6. Ah bon? Voilà, c'était un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on m'avait enseigné, de bien lire Laurence Pernot, ou Pernou, je ne sais plus comment elle s'appelait, sur comment élever un enfant, etc. Mais ça ne marchait pas avec ma fille non plus. Ça. Voilà. Donc ça, oui, c'était une rencontre étonnante et qui m'a amenée à la psychanalyse et à la question du désir, en fait, tout simplement.
Donc une rencontre qui peut-être a fait naître un peu d'inquiétude, voire d'angoisse chez toi.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, cette dame, elle pouvait vraiment pleurer, mais parler de choses effroyables pour elle, et partir avec un grand sourire en disant merci, je fermais la porte, et moi je restais avec ça, et je me disais, ben mince, maintenant c'est moi qui suis angoissée. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'en est pas resté là. Ça aurait pu rester dans des moments comme ça d'angoisse et se dire, mais comment je fais? Mais non. Justement, c'est là où il y a quelque chose de très enseignant, c'est que ça a permis aussi que, de mon côté, l'angoisse cède à un moment donné et qu'il y a un autre travail qui se fasse avec elle. Ouais. C'est une dame que j'ai accompagnée plus de 10 ans. Oui. Et qui m'avait aussi, je me souviens de cette phrase-là, elle avait rencontré un psychanalyste quand elle était plus jeune et elle en témoignait d'une très très belle façon de cette rencontre. Et elle témoignait de la différence pour elle entre la psychiatrie et la psychanalyse du fait de cette rencontre. Et son psychanalyste lui avait dit cette phrase dont c'était une phrase qu'elle utilisait souvent. Elle disait toujours, quand je fais des courriers, je dis toujours à la fin de mes courriers, avec mes sentiments choisis, ce qui me permet de les choisir. Et en fait, c'était une phrase du psychanalyste qu'elle avait rencontré. Mmh. Et voilà, elle disait d'ailleurs que ça lui avait sauvé la vie. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est possible. Il y a quelque chose qui existe et c'est possible.
Et donc, tu évoquais tout à l'heure une autre rencontre, celle de Marguerite Duras, de l'écriture de Marguerite Duras.
C'est ça. Alors, j'ai rencontré l'écriture de Marguerite Duras j'ai commencé avec le livre Le Marin de Gibraltar. Ça a été le premier livre que j'ai lu de Duras. Et là, je me suis... J'avais jamais lu quelque chose comme ça, en fait. Ça a été l'étonnement. Pas que l'histoire, quand même, l'histoire avait son importance à l'époque pour moi. Et je crois que c'est ce que j'ai recherché après aussi dans d'autres livres de Marguerite Duras. C'est la question du désir chez les femmes. Ça, c'est quelque chose qui m'a attrapée dans l'écriture de Duras. Et c'est un moment, en fait, où je commençais à gribouiller sur des feuilles blanches, en fait, et où je me suis dit, là aussi, en fait, hein, comme avec cette dame que j'avais rencontrée au travail, il y a quelque chose qui est possible. En fait, en même temps, je dis ça et je me dis, c'est comme si autant l'écriture de Duras que la rencontre avec cette dame était venue me dire que je pouvais m'autoriser à y aller. Tu peux t'autoriser à écrire, tu peux t'autoriser à y aller. Assez grande maintenant, c'est allez, vas-y. Voilà, il y a quelque chose de ça. Et dans l'écriture Duras, il y avait aussi quelque chose de ça. Et après, j'ai lu Écrire de Duras, qui reste pour moi un livre que je peux lire 10 fois, 1000 fois. Chaque phrase, j'ai l'impression à chaque fois de la découvrir. Alors que je sais que j'ai lu le livre, et ben c'est pas grave, je le relis et je me dis, oh, mais ouais, non, mais quand même. Et il y a quelques livres comme ça de Duras que j'ai dû acheter je ne sais pas combien de fois en me disant, mais tu l'as lu mais tu l'as pas ce livre. Je rentre chez moi, en fait, il est dans ma bibliothèque. Donc j'en ai... voilà. Alors, Écrire en fait partie. Je vais d'ailleurs vous lire un tout petit passage parce que on peut parler de l'écriture de Duras, mais c'est quand même elle qui en parlait le mieux. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ça ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser. Mais c'est la plus courante aussi. L'écrit, ça arrive comme le vent. C'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit. Et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. Et ça, chez Duras, ça me touche parce qu'au-delà du sens de la phrase, si on sait à l'avance qu'on va écrire, c'est pas de l'écriture, c'est pas de l'écrit comme elle dit, c'est tout ce qui résonne en fait pour moi chez Duras. Il y a cette petite musique dans l'écriture de Duras qui me surprend à chaque fois que je la lis, et notamment à partir de cette période après le marin, en fait, de Gibraltar, avec Détruire, dit-elle, La maladie de la mort, Les yeux verts, ses interviews avec Michel Laporte. En fait, je ne peux pas dire l'écrire Duras, c'est ça. En fait, ça se passe de mots avec Duras. C'est pour ça que c'est comme ces rencontres dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'écriture de Duras, c'est ça. La rencontre avec Madame S, c'est ça. Il n'y a pas un mot qui peut dire ce que c'est. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'en même temps que je suis en train de dire ça, je suis en train de me dire que j'ai commencé à écrire beaucoup aussi après la rencontre avec Madame S. Alors pas la même écriture, mais il me fallait en passer par l'écriture aussi, après les rencontres avec cette dame. Il y avait quelque chose qui n'était pas possible pour moi autrement aussi, d'en passer par l'écriture. Ouais, il n'y a pas de mots. C'est-à-dire qu'on peut tenter, on essaye de cerner ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai essayé de cerner ce qui se passait pour moi dans les rencontres avec cette dame. Mais c'est comme ce que dit Duras. On ne le sait pas à l'avance. C'est là. Et c'est la vie aussi. C'est comme ça. Ça résonne.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut revenir à ton métier d'assistante sociale? Donc le premier, pourrais-tu peut-être donner indication d'autres rencontres qui auraient été décisives, d'autres expériences?
Oui, alors la première expérience professionnelle qui m'a bousculée, mais je me suis dit que je... Au fond, je savais pourquoi je faisais ce métier, sans pouvoir dire je le fais parce que. En effet, j'avais 23 ans. Donc j'étais assistante sociale en faveur des élèves dans un lycée. Et c'est une jeune fille qui devait avoir 15 ans, 15 ans et demi, qui venait rencontrer l'assistante sociale pour parler de ce qui se passait pour elle. Et elle jouait du piano. Et cette jeune fille était brillante, étonnante. Et elle n'arrivait pas à dire ce qui se passait dans son histoire. Elle disait, je me souviendrai toujours de cette phrase, « Je dois vous dire quelque chose, mais je ne peux pas le dire. » Et donc, le moyen qu'elle avait trouvé, elle enregistrait des morceaux de Chopin qu'elle jouait au piano chez elle. Elle me déposait des petites cassettes pour que je les écoute. Ce que j'ai fait pendant un certain nombre de temps, sans rien lui demander, de cette musique, je les écoutais. Et puis un jour, elle m'a dit « je suis prête à dire ». Donc cette jeune fille avait été victime d'un abus sexuel. Et à partir de là, elle avait été prête à faire ce qu'elle devait faire aussi pour elle. C'est-à-dire que c'était important d'obtenir... que la loi intervienne, ce qu'elle disait. Et ce jour-là, je me souviens que je me suis dit, ouais, je sais aussi pourquoi je fais ce travail-là. Je le fais aussi pour ça. Pour qu'à un moment donné, une personne puisse prendre la décision de dire, ou pas d'ailleurs, et là pour le coup, c'était de dire ce qui s'était passé dans sa vie. Et oui, de dire. D'aller dire à quelqu'un, voilà ce qui m'est arrivé, mais dans le temps, dans son temps à elle. Voilà.
Oui, mais justement, tu étais jeune assistante sociale.
23 ans.
Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es autorisée à ne rien lui demander de particulier, à ne rien attendre de précis, à respecter le temps qui était le sien. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu t'autoriser ça à l'époque ?
Eh bien, je ne sais pas. C'est une bonne question. Parce que je ne sais pas à l'époque si c'est que j'ai laissé le temps à cette jeune fille, c'est-à-dire qu'après coup, je le dis comme ça, ou s'il y avait quelque chose d'inhibé chez moi qui fait que je ne lui posais pas de questions. Ce qui n'est pas pareil.
Oui.
Et je pense quand même plutôt qu'à 23 ans, c'était plutôt du côté de la peur, de l'empêchement de lui poser la question, plutôt que d'un choix, d'une position. Oui, bien sûr. 23 ans, non. J'en étais pas là, donc non. Puis en plus, quand j'ai commencé le métier d'assistante sociale en lycée, ça c'est vraiment une anecdote, mais c'était rigolo. J'allais dans les couloirs, en salle des profs, pour rencontrer les enseignants, et les premières fois, dans les couloirs, les enseignants me disaient « T'es pas en cours, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je disais « Non, non, mais je suis l'assistante sociale. » C'était pas possible pour eux, j'étais trop jeune. Oui, je pense que là, pour le coup, c'était plutôt la peur et l'empêchement de prendre une position aussi ferme. Je naviguais un peu à vue.
En tout cas, ce sont des circonstances qui t'ont vraiment appris quelque chose quant à la position que tu pouvais prendre en qualité d'assistante sociale.
Ah oui,
dans la
oui.
rencontre avec...
En fait, je crois que ça m'a... En fait, c'est, quand je dis naviguer à vue, c'est quand même relativement ça. C'est-à-dire que... alors après, ça reste mystérieux. Pourquoi ça s'est fait comme ça pour moi, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'ai eu mon diplôme et qu'on apprenait les dispositifs, etc., quand j'ai commencé à travailler, c'était là... Mais c'était pas au devant, en fait. Les dispositifs, ils existaient, je les connaissais, j'avais le guide familial, les imprimés, les demandes, etc. Mais il y avait quelque chose qui, en fait, était mon propre style, était mien. C'était que, en fait, c'est pas ça qui m'intéressait. Donc, je naviguais à vue parce que remplir un imprimé, j'avais bien compris quand même rapidement qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient les remplir. Pour autant, ils venaient quand même me voir. Donc ça, pour le coup, ça m'interrogeait. Et je laissais faire. Alors, je laissais faire certainement, en effet, par inhibition, par peur. Mais pas que. Il y avait quelque chose qui faisait que j'y allais. Voilà, c'était là. Alors, en effet, c'était pas sans angoisse, c'était pas sans peur, c'était pas... Mais c'était plus fort que moi, en fait. Vraiment. Je me souviens, en lycée professionnel, ça faisait 2-3 ans que je travaillais. J'ai rencontré un jeune... qui arrivait d'un pays étranger, pour qui c'était très compliqué la langue, et qui devait avoir pas beaucoup d'années d'écart avec moi. On savait pas trop, d'ailleurs, sa date de naissance, je me souviens, et il était très imposant physiquement, et il parlait avec beaucoup d'agressivité. Oh et moi, quand je savais qu'il avait pris rendez-vous, j'étais pas très bien, en fait, avant de le recevoir, ce jeune homme. Et là, c'est pareil, on pourrait me dire, mais pourquoi tu as fait ça ? Je n'en sais rien. En tous les cas, ce jeune homme, j'avais l'impression, mais je ne sais pas dire quoi, mais j'avais l'impression qu'il fallait que ça en passe autrement que par du classique entretien. Et à un moment donné, il parlait qu'il avait fait du théâtre dans son pays. Il venait de Serbie, ce monsieur. Et il était interne. Et là, je me suis dit, il faut qu'on monte un projet théâtre. Et donc, je suis allée voir le CPE à l'époque et je lui dis, on pourrait monter un projet théâtre. Et il m'a dit, pourquoi pas, mais sur quoi, enfin, etc. Ben, je lui dis, j'en sais rien et je ne sais pas pourquoi non plus. On a réussi à trouver un acteur qui est de Paris, qui travaillait aussi au théâtre et qui nous a dit, ah, bon, moi, c'est un projet qui m'intéresse, je viens. Pendant 15 jours, il a fait des répétitions avec les élèves, dont ce jeune garçon. Et c'était super. Et ce garçon a pu s'exprimer par le théâtre autrement. Après, il n'est pas resté. Il est parti, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je ne sais, oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Après, je me dis souvent ça, hein. Je me dis, souvent cette phrase qui peut paraître simpliste, la vie est... qu'est-ce que la vie a été bien faite pour moi, c'est parce que il y a eu comme ça des rencontres, des opportunités, et ça a marché, quoi. Enfin, oui, ça a marché. Certainement parce que j'ai rencontré aussi de belles personnes dans tous les lieux de travail aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, dans mon métier d'assistante sociale, j'arrive à... alors que le contexte peut être difficile de travail, eh bien, il y a toujours du possible. Enfin, il y a... je sais pas. C'est comme ça. C'est dans le métier d'assistante sociale, en fait, ce qui me surprend le plus encore aujourd'hui, parce que mine de rien, ça fait plus de 20 ans que je l'exerce, c'est l'impression que j'ai commencé hier. C'est-à-dire que... je sais pas, je vais au travail, je suis contente d'aller au boulot, quoi. Je trouve que j'ai de la chance. Voilà. Je me dis quand même, même si des fois je râle, parce qu'il y a des choses qui m'agacent, parce qu'il y a des choses, je suis pas d'accord avec le cadre institutionnel, enfin, tout ça, ok. Mais au fond, sur le cœur du métier, ça me touche encore au cœur, en fait, c'est ça. Ça m'émeut, voilà, je peux être des fois un peu en colère après des choses, mais je sais pas, quand j'ai fait ma formation, on parlait du cœur du métier. C'est une expression, mmh, en fait. Et je crois que oui, il y a quelque chose dans le métier d'assistante sociale qui est au cœur de ce métier. C'est pas n'importe quoi. C'est du vivant. C'est pas des mots en l'air. C'est pas des rencontres comme ça. Une rencontre en vaut une autre. Non, c'est... je sais pas. C'est un métier difficile à exercer si ce cœur de métier vibre pas. Voilà. C'est ça. Moi, je suis très dure parfois, hein, sur le métier d'assistante sociale. Ou quand je prends des stagiaires. Je leur dis toujours, si vous faites de votre métier un métier administratif, partez, ne le faites pas. Parce que c'est un métier qui est non seulement beau, je trouve vraiment, hein, mais c'est surtout que quand même, il y a des assistantes sociales, il y en a dans plein de lieux géographiques. Pour tout citoyen sur un territoire donné, il y a la possibilité de rencontrer une assistante sociale pour X raisons. Donc ça veut dire que c'est le premier interlocuteur quelquefois en termes d'accueil par rapport à une histoire, par rapport à un moment donné de sa vie. Et si ce premier temps-là n'est pas occupé par une personne qui peut accueillir dignement celui qui s'adresse à elle, je trouverais ça terrible. Mmh. C'est pour ça que je dis souvent, si on en fait un métier de fonctionnaire ou d'administratif, je pense qu'il ne faut pas le faire. Ou alors on le fait, mais on le fait pour soi ou pour gagner sa vie. Mmh. Ce qui me semble vraiment dommage. Mmh. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs sociaux. Mon choix musical, c'est La Caravane de Raphaël. Voilà. C'est une chanson qui a toujours été présente pour moi quand elle est sortie. Je ne me souviens plus l'année de sa sortie. Et la première fois que je l'ai entendue, ça m'a émue. Enfin, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Il y a la voix de Raphaël. Au-delà du texte au départ, c'est la voix, c'est la guitare. Bon, après, il y aura le sens de la chanson. Mais au départ, ce n'était pas le sens, hein, vraiment du tout. C'était la voix, la chanson... J'avais envie de danser sur la chanson et en même temps, il y avait comme une petite tristesse qui surgissait. Je me disais, tiens, c'est vraiment étonnant, cette chanson. Et il se trouve que cette chanson, je n'ai pas le disque. À un moment donné, je me suis intéressée un peu plus à la construction de cette chanson. J'ai appris que Audiard avait suivi Raphaël en tournée et en avait fait un DVD. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, je suis curieuse, donc je vais aller voir. J'aime bien Audiard en plus, donc je vais aller voir ce que c'est. Donc, j'ai acheté ce DVD que j'ai égaré 5 minutes après l'avoir acheté, que je n'ai jamais retrouvé. Donc, je me suis dit, c'est quand même pas banal. Et puis, mon père est décédé il y a 4 ans. Et quand nous avons préparé les obsèques de mon père, j'apprends qu'il voulait que passe une chanson le jour de ses obsèques, et c'est Caravane de Raphaël. Alors là, c'était la surprise, vraiment. Je ne m'y attendais pas du tout, et je me suis dit, mais cette chanson, elle m'accompagne dans différents moments de ma vie, pour différentes raisons. Et le jour de ses obsèques, le matin, j'ai lu pour la première fois, parce que je n'avais jamais pris le temps de lire, les paroles de la chanson. Voilà. Et en fait, je me dis, ben oui, c'est la vie. La caravane, c'est la vie. Mais la vie, dans ce qu'elle a de beau, de bousculant, de triste, de terrible, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est pas une belle histoire, caravane, c'est juste l'histoire de la vie. Et donc, je me dis, ben ouais. Elle t'a accompagnée depuis longtemps. Et bon, elle restera énigmatique, hein, mais je veux bien qu'elle le reste. Je veux bien qu'elle le reste.
Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble? Si je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Cette caravane, et nous partons, allez, viens. Cette caravane, et nous partons, allez, viens.
Je voulais vivre dans une caravane. Et là, mon premier métier, souvent on dit aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors souvent c'est maîtresse d'école, souvent, infirmière, etc. Et moi quand on me demandait, j'étais jeune, hein, je devais avoir 5 ans, 6 ans, je pense que c'était mon année de CP. Quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je voulais être gérante d'un manège et partir avec, avec les gitans dans les camps et en caravane.
Wow.
Et au grand dam de ma mère, je le dis tout de suite, qui me disait que c'était pas possible. Et je lui disais, mais si, mais moi, plus tard, je veux avoir un manège et je veux voir les yeux des enfants briller quand ils attrapent le bonbon. C'était ça, mon truc, quand j'étais petite. C'était voir la joie de l'enfance dans le regard.
D'accord.
D'où peut-être la caravane.
Laetitia, est-ce que tu fais... Enfin, je crois que tu fais une distinction entre le métier et la profession. Pourrais-tu m'indiquer, nous indiquer quelle distinction?
Oui, tout à fait. Comme tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, je ne dis pas la profession d'assistante sociale, je dis le métier. Et je ne m'étais pas posé la question, tu ne m'aurais pas fait remarquer, je pense que je ne me la serais pas posée. Mais je crois que si le mot métier arrive spontanément avec assistante sociale, c'est qu'il y a quelque chose du côté de l'artisanat, c'est-à-dire d'une façon de faire, de façonner sa place que je n'entends pas du côté du mot profession. C'est marrant parce que je m'entends le dire et je me dis profession, ça te fait penser à quoi? Je me dis ça me fait penser à professeur.
Oui.
Comme s'il
oui.
y avait quelque chose du côté de l'enseignement, alors que du côté du métier, c'est pas du côté d'un enseignement qui professe, c'est quelque chose qui se réalise, qui se forme en fait, qui se construit,
qui se transmet,
oui. D'où l'accueil de stagiaires pendant longtemps. En moyenne, tous les 2 ans, je prenais des stagiaires pendant 6 mois. Je trouvais que c'était vraiment important. Parce que ça ne peut pas se transmettre dans les livres. Ça ne peut se transmettre que à le vivre, à le faire et à le construire ensemble. Oui. Moi, j'ai beaucoup plus dans ma formation d'assistante sociale. Tout ce que j'ai le plus appris, c'était dans mes stages.
Oui.
D'ailleurs, on parlait de rencontres tout à l'heure. Quand j'ai fait mon stage de 3e année d'assistante sociale, je l'ai fait à l'Éducation nationale en service social pour les étudiants. C'est marrant, ça m'avait échappé. Et donc, pour faire mes 6 mois de stage. Et la formatrice vivait une histoire personnelle très difficile qui fait qu'elle a été en arrêt maladie 4 mois sur les 6 mois. Et donc j'ai dû me débrouiller là aussi. C'est pour ça que là je me dis la vie a été bien faite, parce que ça peut paraître difficile de se dire oh, hein, 3e année, pas encore diplômée, mais là aussi bah, c'est où j'y allais ou j'y allais pas, mais j'y suis allée. Et j'ai accompagné une jeune fille qui était d'ailleurs ma situation pour mon diplôme d'état, c'est la situation que j'avais choisi de présenter devant le jury, une jeune fille étonnante qui était dans cette ville universitaire cachée parce que victime de violence par son père, et que j'ai accompagnée pendant 6 mois, et ça là aussi, ça a été comme un voyage quoi, avec cette jeune femme. Et du coup, mes stages m'ont appris énormément, énormément. Et je m'étais toujours dit, quand j'ai eu mon diplôme, oh, tu transmettras quelque chose, n'oublie jamais d'accueillir des stagiaires, même si tu as beaucoup de travail, même si c'est toujours en plus du travail, vraiment c'est important, ouais. Stagiaire.
Donc, tu disais tout à l'heure que tu travailles comme assistante sociale depuis 20 ans.
Oui, plus de 20 ans.
Plus de 20 ans. Le contexte sociétal n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre? Quelles sont les indications que tu aimerais donner éventuellement à des assistantes sociales qui démarreraient maintenant leur métier?
Ah, c'est une question pas simple. C'est une question pas simple parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé en effet. Non seulement le contexte sociétal, mais même la formation d'assistante sociale a changé. Puisqu'au fur et à mesure des accueils de stagiaires, Je mesurais qu'en effet, les choses changeaient. Il y avait de moins en moins de temps d'échange sur l'analyse des pratiques, par exemple, pour les assistantes sociales en formation. Il y avait beaucoup plus de cours de politique sociale, le travail du territoire, des dispositifs. Alors, c'est une question pas simple parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas mettre de côté les politiques sociales, les dispositifs et ce pourquoi elles sont formées quand même. On ne peut pas le mettre de côté. En même temps, j'aurais envie de dire, ça, ce sont comme des outils dont elles ont à disposition. C'est-à-dire comme une boîte à outils qui leur dit que si telle personne, tu prends cet outil-là, tu fais une aide financière, tu dois travailler sur un territoire donné, etc. Ok, mais tout ça... ce sont juste des outils. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse aller à la rencontre de la personne. C'est ça qui reste, quel que soit le contexte. Aller à la rencontre de l'autre, c'est primordial pour pouvoir travailler avec un autre. Les dispositifs, ils en découlent. Ce qui me semble difficile aujourd'hui pour les travailleurs sociaux, c'est que je ne crois pas qu'ils aient les moyens de prendre le temps de la rencontre. Et ça, c'est une vraie question. C'est la question du temps de la rencontre qui est souvent mise de côté au profit de... On entend, hein, moi j'entends des collègues qui me disent que ils doivent rencontrer une personne, ça peut pas des fois dépasser 20 minutes, quoi. C'est du formatage. Mais alors, moi je pense que ça vaut le coup de résister parce que le temps de la rencontre, c'est ce qui se passe dans un bureau entre deux êtres humains. Ça appartient à cet espace-là. Et c'est ce qui est important de préserver. Il n'y a pas de recette. Je dirais aussi qu'il faut s'écouter. C'est-à-dire que c'est important aussi de... Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais je le disais aux stagiaires, hein, si on fait une rencontre avec une personne et on ne peut pas, on ne peut pas. Il faut aussi écouter ses limites. C'est important de ne pas y aller si on ne peut pas. Parce que souvent, on entend tout ce qui marche bien, etc. Mais il y a aussi ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça ne marche pas. Enfin, on n'est pas des robots. Donc, on peut aussi se dire, non, là, ce n'est pas possible pour moi. Et au début de cet entretien, hein, tu as évoqué, je ne sais plus quel terme tu as utilisé sur le fait de mes deux métiers, on va dire ça comme ça, assistante sociale et psychanalyste, et qui... Je ne sais plus quel terme tu as utilisé, tu t'en souviens ?
Une association qui ne va pas de soi.
Voilà, une association qui ne va pas de soi. C'est étonnant parce que... parce que pour moi, c'est une évidence. Mais ça l'est aujourd'hui. Je précise quand même. Ça l'est aujourd'hui. C'est pas une question qui s'était posée à moi quand j'ai commencé comme assistante sociale. Mais je pense que ça l'est aujourd'hui d'autant plus que quand j'ai commencé comme assistante sociale, par exemple sur les aides financières, parce que quand même, c'était sur ces points-là que j'étais interpellée, quand quelqu'un, un fonctionnaire, venait faire une demande d'aide financière, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que, quelquefois, financièrement, c'était pas si catastrophique que ça. Quand quelqu'un venait pour remplir un dossier CAF, je me disais, mais quand même, ils savent écrire, ils savent remplir, l'imprimer. Et j'en arrive à la psychanalyse. Hein. Et donc, ça, la question, c'était, mais pourquoi ils viennent, en fait ? Pourquoi ils viennent ? Et ce pourquoi ils viennent m'a amené à donc non seulement interroger ma place d'assistante sociale, mais aussi à interroger la question 1 de cet objet, l'aide financière, le papier, etc. Et quand on reste par rapport à la formation d'assistante sociale... du coup, on est vraiment centré sur cet objet à donner ou à pas donner, en fait. Sauf que le cœur de la difficulté pour la personne, c'était pas forcément l'objet ou pas l'objet à donner, sauf si on est dans une urgence hein, de vie hein, ou de mort. Et la psychanalyse m'a permis d'éclairer ces questions-là. Et de là, qu'est-ce qui fait qu'après on devient analyste ? Ça, c'est une question propre à chaque analyste. Mais là, c'est fait, je dirais, presque comme un mouvement, un tissage. Mm-hmm. On pourrait reprendre ce terme, de l'un à l'autre. Voilà, un tissage de l'un à l'autre. Mais en plus, je crois que vraiment hein, de devenir psychanalyste aujourd'hui, c'est un engagement aussi par rapport au contexte sociétal, par rapport à la question de la parole. Vraiment, c'est important. Donc ça ne va pas de soi, mais à l'arrivée, c'est une évidence. En tous les cas, ça s'est écrit comme ça pour moi. Voilà. Je dirais ça. Mais ça, on le sait après coup. Sur le moment, on ne le sait pas. On tâtonne. Et voilà. On tisse des fils, on avance. Et c'est étonnant d'ailleurs, quand je dis on tisse des fils, parce que je pense qu'au départ, il y a des choses qui pouvaient être très intellectualisées. Hein. J'ai commencé avec la question des savoirs. Et du coup, c'était pas tisser des fils vraiment. Il n'y avait pas ce côté, la matière, le métier, le vivant, le corps, enfin. Et tout ça, en fait, quand on accepte de ne plus l'ignorer et de laisser. Voilà, même s'il y a en effet des moments où il y a eu de l'angoisse, etc., mais de laisser les choses comme ça se faire et de. Oui, c'est. C'est comme la vie, c'est beau, ça peut être beau. C'est musical, des fois.
C'est musical.
Ça résonne. Alors, ça résonne musicalement, comme ce morceau de Radiohead, en fait, hein, que j'aimerais que vous puissiez passer.
D'accord.
Voilà. Qui est une chanson qui me touche énormément, mais vraiment c'est quelque chose pour moi. Alors le groupe, je trouve que c'est de la création, le chanteur, sa voix résonne pour moi, mais il y a une chanson en particulier parce que c'était la scène d'ouverture d'un film qui s'appelle Incendie, je sais pas si de Denis Villeneuve.
Oui.
Voilà. Et en fait, cette chanson, elle fait écho à plein de choses, hein, parce que j'ai beaucoup aimé le film, que j'ai adoré le livre au départ de Wajni Mouawad. Et en fait, c'est une chanson qui vient faire écho autant à la littérature qu'à la musique, qu'à l'enfance, qu'à plein de choses. C'est pour ça que j'ai fait le choix de cette chanson. Voilà.
Take us.
Patricia, en guise de conclusion, et peut-être en quelques mots, pourrais-tu nous dire quelle serait ta définition de la rencontre ?
En quelques mots, je dirais indéfinissable, propre à chacun, et on sait qu'il y a eu rencontre.
On le sait ?
On le sait, après. On sait qu'il y a eu une rencontre. On le sait soi.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci pour ce voyage en caravane.
Merci Patricia.